Salut, ici Maps. Aujourd'hui, c'est le 12e épisode du podcast Qu'est-ce que tu lis? Donc, c'est l'année au complet. Au mois de juillet, ça va être la deuxième saison du podcast. Et aujourd'hui, je vous présente mon panel. On a quand même, je vous dirais, des gens qui sont déjà venus sur le podcast. On a quand même aussi pas mal de nouveautés. Donc, je suis pas mal contente de vous les présenter. Il y en a une autre qui est supposée d'arriver, on verra si elle arrive entre-temps, je vous la présenterai lorsqu'elle sera là. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes avec nous, à nous faire des petits coucou comme d'habitude. Puis, pour la petite poutine, ben ce podcast-là, c'est un podcast où on parle de nos lectures tout simplement. Tous les titres qui sont mentionnés dans l'épisode d'aujourd'hui vont être ajoutés à la description de la vidéo sur YouTube. Donc, si vous cherchez à savoir là, exactement le titre dont on a parlé. Et si vous allez sur YouTube aussi, vous allez pouvoir retrouver les chaînes Instagram, les comptes Instagram de toutes ces personnes parce qu'aujourd'hui, on a une gang de bookstagrammeurs et bookstagrammeuses. Donc, on y va tout de suite. On va y aller avec Noémie. Bonsoir, Noémie.
Salut!
Donc, ta deuxième présence à ce podcast. Comment tu te sens?
Très excitée de faire partie là, de ce 12e épisode. Toujours hâte de parler de livres. Je pense que c'est mon sujet favori.
On se comprend. Puis en plus, j'étais supposée d'avoir préparé quelque chose, mais il est là, fait que je n'irai pas le chercher. J'ai découvert que la première et seule lecture, je crois, qui a été recommandée dans tout le podcast, ça va être la tienne. Parce que j'ai dans ma bibliothèque, je vous demande de fermer les yeux et d'imaginer un endroit calme.
Oui.
Dans ma bibliothèque, donc je pense que c'est le seul que je vais avoir lu de tout des 12 épisodes de podcast. Petite primeur pour toi. C'est pas encore fait, mais ça s'en vient.
Donc,
merci d'être avec nous. On a aussi quelqu'un qui a déjà été là, je pense que c'est ta quatrième fois. Élie, lis pour la cause. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Je ne sais pas, c'est la troisième fois, je pense.
Troisième fois? Il y avait une fois avec ma littérature au café.
Oui, une fois ici, puis une fois là, je pense.
Oui.
Ben, quoi qu'il en soit, c'est toujours un plaisir.
Ben, c'est très agréable de te revoir. Puis là, on s'en va dans de la nouveauté. Donc, on a avec nous Salomé du conte Les bibliopholies de Salomé. Bonsoir,
allô!
Salomé.
Allô.
Comment vas-tu?
Ça va très bien.
Est-ce que tu es prête à parler de littérature ce soir?
Je suis d'attaque. Malgré ma grosse journée et ma fatigue, je suis d'attaque.
Excellent. Et qui dit Salomé, je ne pouvais tout simplement pas faire un duo avec son acolyte de toujours, Sam, de la chaîne.
Surprise!
Ben oui, un petit lecteur. Comment ça va, Sam?
Ça va très bien. Vraiment choyé, justement, d'avoir accepté ton invitation. Merci.
On est très contents. Ben, je suis très contente que tu sois là ce soir. Ben oui, c'est ça. Et petite cerise sur le sundae, ça faisait une couple de fois qu'on essayait de s'organiser. Puis, si je ne me trompe pas, c'est la première personne avec qui j'ai fait une lecture commune sur l'histoire de ma vie des réseaux sociaux. Alors, la bibliomaniaque, est mieux connue sous le nom de la bibliomaniaque, de ton prénom Alexane.
Oui.
On ne connaît pas nos noms sur les réseaux sociaux.
Non, c'est ça.
C'est pas facile. Donc, comment ça va s'asseoir?
Très bien. Bien excitée d'être là aussi.
Super. Donc, on va commencer ça. Aujourd'hui, on a encore une fois un panel plein. Si vous êtes avec nous, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Puis, on va y aller. On va y aller. Élie, est-ce que tu es prête à commencer?
Oui, toujours. Est-ce que là, je parle de ma lecture en cours, hein, c'est ça?
Qu'est-ce que tu lis? Dis-moi donc ça.
Qu'est-ce que je lis? En ce moment, ben, vous savez, moi, je fais en juin, je lis Autochtone, donc j'ai décidé de faire un livre, de faire un mois 100% lecture autochtone. Et pour voir, tu sais, il y a beaucoup de diversité dans la littérature autochtone et je voulais voir si je fais un mois 100%, est-ce que je vais finir, tu sais, par me tanner, tu sais, parce que si on lit toujours le même genre, généralement, on finit par se tanner. Et il y a tellement de variété que j'en redécouvre encore et je ne suis pas tannée encore, même si nous sommes rendus presque à la fin, un peu plus que la moitié. Je lis présentement, je ne sais pas si on va bien le voir, là, mais « Ligne brisée » de Caterina Vermette, qui est traduit par Mélissa Véro, qui est aussi une autrice. Et c'est tellement bon. Il me reste moins de 100 pages à lire. Il y a la suite qui est parue il y a plus récemment, c'est « Les femmes stranger ». En fait, c'est une suite pas suite, là, c'est qu'il y a certains personnages qui se retrouvent dans « Les femmes stranger ». Alors, c'est pour ça que j'avais déjà acheté « Les femmes stranger », je me suis fait dire qu'il fallait que je lise celui-ci d'abord. C'est un roman avec plusieurs narrateurs, donc faut le savoir, là, ça peut parfois être un peu... ça prend un petit moment là, à voir tous les personnages, mais vraiment, c'est en fait une femme qui voit de sa fenêtre une agression. Elle sait pas trop ce qu'elle croit avoir vu. Elle pense avoir vu une agression sexuelle, mais elle est pas trop certaine. Et elle avait ses deux jeunes enfants avec elle, un bébé qui pleurait dans ses bras. Elle a voulu aider, mais elle a appelé la police, a pas pu faire autant que ce qu'elle aurait voulu faire. Et là, ben, les policiers arrivent et la croient pas forcément parce que c'est en plein hiver, puis ils disent que son histoire est peu plausible. Et là, ben, on va voir tous les personnages, chacun de leur côté. L'histoire va finir par se rassembler. C'est une écriture qui est puissante, des images fortes. Chacune des... c'est la majorité des femmes. Là, il y a un policier qu'on suit aussi tout au long de l'histoire, mais sinon, ce sont que des femmes et elles ont toutes leur propre vécu, vivent la situation toutes de façon différente. Et vraiment, là, c'est vraiment bon, même si l'histoire est difficile. La solidarité entre ces femmes-là reste vraiment remarquable. Donc, je vous le recommande chaudement. Puis, tu sais... souvent, là, je dis, ah, j'ai de la misère à parler d'un livre que je suis en cours de lecture. Tu sais, souvent, je vais aller parler du livre que j'ai terminé, mais celui-là, je ne pouvais pas passer à côté, là, vraiment. Là, ça s'enligne pour un coup de cœur. C'est difficile à dire parce qu'il me reste 100 pages. Là, des fois, que les 100 dernières pages, je me décevrais, là, mais pour l'instant, là, je trouve ça vraiment exceptionnel.
Il y a beaucoup de liens entre nos deux lectures.
Ah oui?
Aujourd'hui. Puis je l'avais vu passer, je pense, une couple d'années sur la chaîne de Cindy Landes Booktube, puis elle avait justement dit qu'elle avait beaucoup aimé. Puis j'ai, tu sais, comme lorsque tu n'as pas l'occasion de mettre cette lecture-là sur ta palle ou tu sais, comme tu ne la priorises pas. Mais là, le fait que tu en reparles, ça me fait comme. Ouais. Ça me rappelle que je ne l'ai pas lu, puis ça me déçoit, tu sais.
Oui. Ben, il y en a tellement de bons livres, hein, on voudrait tous les lire. Je dis aujourd'hui, j'aimerais ça pouvoir savourer les livres de la même façon que je savoure des chips, tu sais. Il me semble que je les consommerais plus vite.
J'aime ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'avait lu, Ligne brisée?
Oui. Oh! Ouais, moi je l'ai lu, je l'ai adoré aussi. Puis, ben, j'ai lu également « Les femmes stranger » l'année passée, si je ne me trompe pas. Puis lui, j'ai un peu moins accroché. Je l'ai trouvé plus complexe, moins accrocheur que « Ligne brisée », qui est un petit peu plus comme récit policier. Donc, mais j'avais adoré le « Ligne brisée » aussi.
Oui, parce qu'il est vraiment fait... Tu sais, oui, c'est marquant, mais il y a aussi du suspense, comme tu le dis, parce que là, au fil de... Tu sais, on ne sait même pas, tu sais, c'est qui la victime dans toute cette histoire-là. Au fil de l'histoire, bon, on finit par découvrir qui est cette personne-là. Tous les personnages, ils ont un lien entre eux, mais au début, on les cherche, même si il y a, puis là, ben, vous savez, moi, les cartes, les arbres généalogiques, puis tout, tu sais, je suis très visuelle, fait que là, j'aime beaucoup ça. Fait que il y a cet outil-là qui nous permet, là, je sais pas si on le voit bien, là, même, qui nous permet de bien suivre, là, c'est qui tous les personnages. Puis là, ben, là, on est encore, ben, tu sais, on a des indices, mais on sait pas encore qui sont les agresseurs, en fait.
OK, fait qu'il y a comme un genre de suspense au travers d'une enquête. Il y a un suspense
là-dedans, puis il y a différentes générations aussi, tu sais, la coucou qui est l'arrière-grand-mère, la grand-mère, les cousines, puis après ça, les petits-enfants, tu sais, il y a vraiment plusieurs générations, donc ouais, c'est vraiment plaisant.
OK, bien c'est très intriguant. Merci pour ce partage aujourd'hui. Ça tombe bien. On va parler tantôt là, en mi-parcours de Jeudi autochtone parce que ça vaut la peine d'en parler pour le mois de juin. Noémie, qu'est-ce que tu lis ces derniers temps?
Oui, je suis en train de lire le dernier de Virginie Grimaldi, qui est plus grand que le ciel. Je crois que c'est avec Élie là, que j'en ai glissé un mot cette semaine. C'est mon premier de l'autrice. Là. Je ne sais pas si je suis la dernière personne qui ne l'avait pas lu. Là. Ah, bon, OK, je ne suis pas la seule. Mais j'étais vraiment intriguée là, depuis longtemps parce qu'on dirait que c'est un coup de cœur pour tout le monde. À chacun de ses livres, on dirait que c'est des 5 étoiles pour tous. Donc là, c'est l'histoire là, d'un homme et d'une femme qui ne se connaissent pas, qui fréquentent le même psychologue, psychiatre, qui appelle en tout. Bref, le même intervenant qui se croise dans la salle d'attente. Bon, classique histoire. On se doute vers où ça s'en va, là, tout ça, là, de se croiser comme ça dans la salle d'attente. Tu sais, elle qui consulte pour le deuil de son père, qui est difficile pour elle. Lui qui y va, il parle de tout ce qui est difficile dans sa vie. On sent là, qu'il y a comme quelque chose de plus profond là, de pourquoi elle consulte. Là, je suis comme à la moitié du livre. On ne sait pas trop encore où est-ce que ça s'en va. Donc, c'est ça. Commence à interagir là, dans la dite salle d'attente. J'en sais pas plus pour l'instant. Fait que, je ne suis pas déçue la date pour ma première lecture de l'autrice. Je me dis pas que wow, c'est donc révolutionnaire, là, mais c'est vraiment une lecture bonbon. Là, ça se lit super bien, c'est fluide. Honnêtement, je pense que si j'avais une journée de congé devant moi, c'est le genre de livre que je pourrais lire d'un coup, là, parce que c'est vraiment facile à lire là, sans être un concept là, vraiment révolutionnaire. Moi, ce que j'aime toujours beaucoup, c'est quand les dialogues font du sens, que les dialogues sont fluides, puis là-dedans, je le retrouve quand même. Là, c'est pas robotique, les dialogues. Fait que, tu sais, c'est le fun quand ça ressemble à une vraie conversation ouais. Là, entre les personnages. Fait que ça, j'apprécie toujours beaucoup. Là. Fait que, pour l'instant, là, je suis satisfaite. Je dirais que c'est une autrice que je relirais. Là. Surtout là, l'été, comme ça, on dirait que c'est des petites lectures le fun ou quand on n'a pas envie de se casser la tête. Là.
Petite lecture légère.
Oui, mais sans être trop simplet. Là, tu sais, C'est agréable à lire, c'est pas niaiseux. Les personnages, en tout cas, pour l'instant, je me dis pas tout le long, hey, mon Dieu, pourquoi ils prennent ils font ces décisions-là. Ouais. Fait que, c'est vraiment agréable à lire. Là.
OK. Je pense que tu n'étais pas la seule, c'est ça? Est-ce quelqu'un qui a déjà lu Virginie Grimaldi ici?
Ben, j'ai secoué la tête comme non tantôt, mais finalement, j'ai pensé. L'été passé, j'ai lu celui qui est bleu avec une planche à pagaie dessus, là, Une belle vie, La belle vie. Je ne sais plus exactement.
Honnêtement, les titres, ils se ressemblent tous. Là, ouais.
Mais il était très bon, effectivement. Je ne sais pas si c'est lui le dernier dont Marie-Ève parle dans les commentaires, mais ouais. Je l'avais bien aimé. C'était mon premier de Virginie Grimaldi et mon seul, d'ailleurs. Donc, je suis pas une lectrice incontestée de cette autrice-là.
On n'est pas le public, en tout cas, de ce que je me rends compte. Là. On n'est pas ses plus grands fans.
Des romans doudous. Ouais. Là. Je trouvais qu'elle ressemblait un peu à Lucy Diamond, que j'ai découvert récemment. Là. Ça ressemble un peu à cette autrice-là, ou Marie Vareille aussi, dans un certain sens. Ouais.
Ah, OK.
En tout cas, je suis contente de m'être laissée tenter, là, d'avoir embarqué dans la vague de ce qui est populaire. Pour l'instant, je suis pas déçue, mais c'est sûr que mes attentes étaient élevé envers elle. Là.
OK, quand même. Marie-Ève, justement, nous disait là, qu'elle a lu le dernier de Virginie Grimaldi et qu'elle avait bien aimé. Puis, j'avais oublié de faire des petits coucous. Là. Il y a Joanie Leduc qui est ici. Elle nous dit bonjour à moi et à tout le monde. Puis, joie de lire. Donc, on est bien contente que vous soyez avec nous ce soir. Donc, super pour ça. C'est bien noté. Une petite lecture de plage. Virginie Grimaldi, ça le fait. Alexandre, dis-moi donc, je vais en ordre. J'ai décidé que c'était comme une horloge, mon affaire.
Comme Élie, j'essaie de faire le plus possible le mois je lis autochtone. J'ai mm-hmm. essayé de glisser au moins une lecture aussi pour le mois de la fierté que j'ai faite cette semaine. Mm-hmm. En fin de semaine, qui était une bande dessinée. Mais là, ah oui, je l'ai. Il me semblait que je l'avais. En ce moment, je lis celui-ci. La septième sorcière de Chérie Dimaline. Je n'ai jamais lu cette autrice. Je sais qu'elle avait publié Pilleur de rêve. Je l'ai dans ma pile à lire également. Ouais. Mais impossible pour moi, ce mois-ci, de lire deux livres aussi épais que ça. Là, j'ai beau être une grande lectrice, les briques de 500 pages, là, une par mois, ça me suffit. Il faut que je lise d'autres petits univers. Donc, clairement, je ne lirai pas Pilleur de rêve en juin. Mais cela dit, La septième sorcière, je le fais en lecture commune avec deux de mes amis. Puis, les trois, on est d'accord sur un point, entre autres, là, c'est qu'elle écrit merveilleusement bien. C'est fou l'univers qu'elle a créé avec les sorcières, avec le féminisme. Puis là, il y a les parallèles qu'il y a entre tout ça, c'est incroyable. C'est vraiment super bien écrit. C'est très intéressant aussi. C'est sûr qu'il n'y a pas une tonne de rebondissements, mais juste pour la plume, juste pour plonger dans l'univers qu'elle transmet, c'est incroyable. Super bonne lecture.
Et que ça parle de quoi, un petit peu, genre une sorcière?
En fait, c'est une lignée de sorcières, un groupe de sorcières. Là. Il y a trois femmes, en fait, l'aïeule, la milieu, qui est comme la mère, puis l'adolescente. Puis, elles autres sont comme en charge de... Là, je vois pas exactement, je suis pas rendue très loin, là. J'ai pas encore atteint tout à fait la moitié, là. Mais... sont comme en charge des futurs, tu sais, d'un groupe de sorcières. Ils doivent, en ce moment, ils sont 7, si je ne me trompe pas. Puis là, ils doivent toujours trouver... Non, ils ne sont pas encore 7. Ils sont 5. Ils doivent se rendre à 7. puis là, ils doivent trouver c'est qui la prochaine sorcière tout le temps. Puis il y a un autre personnage qui est venu se greffer à ça, qui essaie de leur nuire, qui est un personnage masculin. Il essaie de nuire à ces femmes-là. Bref, c'est comme une chasse aux sorcières, mais pas négative, tu sais, on chasse pour trouver la prochaine sorcière qui va faire partie de notre groupe, puis en tout cas, c'est... Je suis pas bien bonne pour le résumé, hein?
Non, c'est bon.
Alexandre, là, leur but à ces sorcières-là, c'est de préserver les arts, les femmes au pouvoir, la politique, etc. Est-ce que je me trompe? Non, c'était ça dans le synopsis à la fin.
Ah! Oui, mais je suis pas encore rendue. Ça commence à parler de ça un peu. Hier, j'envoyais des citations à mes amis avec qui je fais la lecture commune, puis je leur lisais des passages. Il y a des passages incroyables, justement, sur ça, sur le fait que, tu sais, c'est une affaire de capitalisme qui essaie de renverser, puis en tout cas, bref, c'est savoureux.
OK. Fait que c'est comme ancré dans le réel quand même. C'est pas tant fantastique, même si c'est des sorcières.
Non, pas en tout.
OK. OK. J'aime ça. Il y a encore des liens au travers de ton livre avec le mien. Je vais tout vous dévoiler le poteau rose. Après, Samuel, dis-moi donc, qu'est-ce que tu lis?
Yes. Moi, j'ai réalisé que c'est un mois-ci. Je lis que des lectures communes. C'est vraiment un addon. Mais fait que j'ai comme deux livres à présenter vite. Le premier, c'est en lecture commune, justement, sous le thème de du mois de la fierté, c'est moi aussi, j'aime les hommes de Simon Boulris puis Alain Labonté. Mm-hmm. Je pense que c'est comme la première fois que je lis un livre de même parce que c'est comme des échanges qu'il va avoir entre les deux auteurs. Fait qu'il y en a un qui est au Québec, puis il y en a un qui est en France, puis c'est suite justement à une catastrophe que va voir justement Alain à la télévision, que la première personne qui va penser en voyant cet acte-là, il va faire comme « Faut que je parle à quelqu'un », puis il pense à Simon Boulris. Je sais pas pourquoi il pense à lui, mais il pense justement à Simon, puis il est comme « J'ai besoin de discuter de ce qui vient d'arriver devant moi ». Fait que c'est ensuite à ça qu'il va comme avoir quelques échanges là, sur leur perception un peu du monde, vraiment là, sur des valeurs, sur les droits. Donc, on voit vraiment très large. On dirait que j'ai comme pas d'opinion en même temps sur le livre pour le moment, parce que c'est comme tellement un peu éparpillé, je dirais. Tu sais, mm-hmm. C'est des petits chapitre de 2 pages, c'est comme, OK, là, on va parler de ce qu'ils ont fait de leur fin de semaine. Puis là, après ça, ah, après ça, on tombe sur c'est quoi tes traumas d'adolescence. Fait que c'est comme très, très ping-pong. Mais ça se lit vraiment bien. Là. J'ai vu que des avis positifs sur le livre. Puis il y a même, genre, juste avant le live, j'ai appris qu'il y a comme un deuxième livre sur le sujet qui s'appelle Moi aussi, j'aime les femmes. Mm-hmm. Qui est comme sorti 2 ans après l'apparition de celui-ci. Puis c'est avec Penelope McQuaid, si je ne me trompe pas. Puis avec Alain Labonté encore. Mais ouais, j'ai hâte de voir pour vrai. Genre, j'ai lu comme le tiers, non même pas, le quart du livre. Fait qu'on dirait que je peux pas encore me placer. Mais ouais, j'ai hâte de voir. Là, je connais des gens qui ont même braillé. Donc,
oh, OK.
Ouais, c'est ça. Fait, ben, pour ce que j'ai lu, ça rentre vraiment très rough. La première page est vraiment ce qu'on décrit comme situation, c'est vraiment atroce. Mais c'est ça, j'ai hâte de voir où c'est que ça va m'amener.
Je l'ai lu, mais ça fait plusieurs années. Fait qu'on dirait que je me... C'est toi aussi, hein, Salomé?
Ouais, moi aussi, exactement.
OK. Parce que j'ai l'impression que c'est pas le genre de lecture qui va me rester en tête. Genre, je l'ai commencé il y a comme 2 semaines, je dirais. Puis 2 jours après, j'avais comme oublié ce qui s'était passé dedans, vu que souvent, quand c'est de la non-fiction, on dirait qu'on a plus de difficultés à assimiler ce qui se passe qu'une comme une vraie histoire, je dirais.
Oui, ben, on est comme, c'est pas chargé envers les personnages. Ouais.
Quand on saute, c'est des petits événements par-ci par-là, puis des opinions sur des sujets. Là, donc, mm-hmm. Ensuite, hein, mon autre lecture commune que j'ai faite, c'est « Comme une chaleur de feu de camp ». Dany Danton, je pense que lui aussi, il est quand même assez connu. Mais moi, je connaissais rien du livre, de l'histoire. C'est même pas même mon genre de livre, je dirais. Parce qu'il y a de la romance à l'intérieur. Puis j'en lis pas. Fait que ce que j'ai à dire de ce livre-là, c'est qu'on va suivre justement une fille qui est au secondaire qui a comme vraiment l'été qui s'en vient devant elle. Elle a hâte de finir l'école. Elle se dit déjà qu'il y a un nouveau voisin qui arrive. Puis là, on dirait qu'elle commence justement à avoir un petit béguin sur lui. Puis tout. Fait que là, on dirait qu'elle s'imagine l'été de rêve qu'elle va vivre, mais il y a un truc qui va justement arriver, qui est comme un tournant dans l'histoire, un petit twist dans le livre qui va faire en sorte que comme tout ça va chambouler son été, entre guillemets, je dirais. Fait que là, elle va comme se remettre en question sur ses relations avec tout son entourage. Fait que j'essaie comme de pas trop en dire. Je pense que dans le résumé, ça... OK, ouais, elle est témoin d'une scène bouleversante. C'est juste ça qu'on apprend. OK. Ils disent derrière le livre, mais moi, j'avais aucune idée de ce qui se passait. Fait que je pense, tu sais, là, j'en parle, mais c'est intéressant aussi des fois de se plonger dans un livre, je pense, sans savoir vraiment ce qui... Moi, je suis comme de plus en plus de même, là. On va... Souvent, on est juste attiré par la couverture qu'on est comme, ah, je vais le prendre, puis, tu sais, on est... On embarque de bien savoir. Fait que... Pour le moment, ça va. C'est comme je dis, c'est pas vraiment mon genre de prédilection, mais ça s'est dit super rapidement. Là. Comme Noémie a parlé tantôt là, avec son livre de Virginie, là, moi aussi, souvent, là, mettons, c'est un petit 300 pages, mais c'est écrit aéré, puis ça s'est très bien en une journée. Là. Pendant les vacances, c'est super aussi. Là. Ouais. C'est pas léger, je dirais, mais c'est léger et...
Léger et pas léger.
Ouais.
C'est très thématique, en tout cas, ouais. Tu sais. Ça fait été, là, avec les chaleurs, là.
Ouais.
T'es dans la bonne saison. Excellent. C'est vrai, ça m'a comme surpris de toi de voir ce livre-là. Comme j'avais pas nécessairement d'attente de ce que tu allais me présenter, mais comme bon, si on m'avait dit que ça allait être ça, j'aurais fait comme non, je pense pas.
Je pense que c'est pour ça, au moins, que je l'ai lié avec d'autres personnes. Fait que je me dis, tu sais, au moins, je peux en discuter parce que de mon plein gré, j'aurais jamais foncé tout droit vers ce livre. Fait que...
Est-ce que tu regrettes d'être sorti de ta zone de confort? Ou...
Non, aucunement. On dirait que le fait que, justement, c'est pas un livre focusé sur la romance, puis il y a d'autres aspects, d'autres thématiques au livre. C'est le fun d'avoir, justement, plusieurs genres, puis aborder d'autres sujets aussi. Là. Ça vient plus me chercher, ouais.
OK. Mm. Donc, ça marche. Excellent. Salomé, qu'est-ce que tu lis?
Bien, beaucoup de choses en ce moment. Genre une dizaine de livres en même temps. Donc, il a fallu que je me restreigne. Puis, je ne savais pas de quoi je voulais vous parler, honnêtement, parce qu'il y a des livres que j'ai juste pas envie d'en parler. Mais c'est ça. Puis là, je me suis dit, je vais aller vers un livre pour lequel je fais de la propagande depuis comme 2 semaines. Mmh, et c'est une non-fiction. C'est Sexualité et dissidence queer. Donc, si vous l'avez passé sur mon compte, c'est ça. Hein, je suis complètement accro. Pour le moment, j'ai lu 4 chapitres sur les 15, mais ça demande du cerveau quand même à lire. Donc, en ce moment, j'ai pas cerveau. Fait que je lis autre chose. Mais j'adore. En gros, de quoi ça parle? Je sais pas comment je vais réussir à vendre ce livre-là. Ça parle de comment l'ordre sexuel normatif joue un rôle dans nos vies, puis nous brime, nous contrôle et blablabla. Fait qu'en gros, la petite traque de comment tu vis ta sexualité comme humain, faut que tu restes dans le chemin et blablabla, en gros. Puis dans le fond, ça explique comment les personnes qui sont queer, comment ils vivent leur sexualité, dans le fond, comment ça vient en résistance à cet ordre-là. Fait que chaque chapitre est sur une pratique qui est considérée comme étant dissidente, déviante. Et ben c'est vraiment juste super intéressant. Là. Fait que, ça va parler de la bisexualité, puis de la fluidité des genres. Ça parle de transidentité, d'asexualité, de pratiques de type BDSM, polyamour. Bref, ça parle vraiment de tout, puis c'est super intéressant. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que c'est un essai qui va venir mixer un peu les théories plus basées sur le militantisme et des théories qui sont plus universitaires en sociologie, en travail social et compagnie. Fait que c'est vraiment un livre là, qui a été créé pour pouvoir être un outil scolaire aussi dans les cours collégiaux et universitaires, mais tout en amenant une partie de comme qu'est-ce qui est vécu dans la vraie vie aussi, puis pas juste qu'est-ce qui est vu à l'université, puis qu'est-ce qui est étudié. Fait que bref, c'est super intéressant. Puis là, je la note énormément. J'ai acheté la copie parce qu'à la base, je l'avais louée. Finalement, je l'ai acheté. C'est comme j'ai besoin de la noter. Faut que ça reste. Faut que ça reste. Fait que c'est ça. Bref, je suis en amour.
Tu l'as vraiment bien vendu, en tout cas.
Ça oui, je l'ajoute à ma liste.
Non, c'est ça, mais je ne sais jamais comment parler. Hein?
Est-ce que c'est un collectif ou c'est...
Oui, dans le fond, il est coordonné par Chacha Enriquez, mais il y a comme une quarantaine de personnes là, qui ont participé à l'élaboration là, du livre. Puis toutes les personnes sont citées à chacun des chapitres, là, ceux qui ont participé. Fait que non, c'est vraiment super intéressant. Puis même si c'est juste la personne qui a relu le texte pour valider, ben elle est citée. Là. Fait que dans cet esprit-là de tout ce qui est militant et compagnie, là, fait que, ouais.
Ça me fait penser...
Est-ce que c'est européen? Oh, excuse.
Vas-y.
Ouais.
Mais non, vas-y.
Ouais, est-ce que c'est justement européen ou c'est québécois comme livre?
Non, c'est québécois, puis c'est ça qui est super le fun. C'est publié par Remue Ménage. C'est ça, c'est québécois, puis c'est vraiment aussi basé sur comment tout ça prend place au Québec. Fait que tu sais, il donne plein d'exemples sur des trucs qui se sont passés dans la culture au Québec, que ce soit au niveau des lois, au niveau des téléréalités. Il donne un exemple d'occupation double. Il donne des exemples de différents propos de notre cher gouvernement présentement. Et ben des affaires. Fait que pour vrai, c'est vraiment comme ancré au Québec, puis dans notre réalité, puis dans ce que nous, on vit. Fait que ça aussi, c'est super intéressant parce que ça, on n'en a pas beaucoup. Tu sais, j'ai été très légèrement en contact avec Chacha Enriquez, justement, puis tu sais, je lui ai dit, je suis vraiment contente qu'on ait une œuvre comme ça qu'on peut consommer, qui est québécoise, puis qui vulgarise le sujet sans prendre de détour. Puis c'est ça qui est intéressant. Tu sais, tous les termes, ils vont être super vulgarisés, vraiment expliqués, mais on va pas en retirer un terme pour dire on va rendre ça plus facile à la lecture. Tu sais, c'est vraiment le terme à la place pour que ce soit plus facile, ben on va te l'expliquer. Tu vas finir par le comprendre. Puis, ben comme ça, tu vas avoir toutes les clés en main pour comme bien comprendre le sujet. Là. Fait que c'est ça qui est vraiment super aussi. Là.
Ça me fait penser, l'année passée, j'ai lu Libérer la culotte, qui est un collectif de nouvelles, comme très autour de toute la sexualité, qui est beaucoup plus intime que ce que tu que ce que tu présentes, qui est vraiment plus un ouvrage à titre informatif aussi, là. Mais j'ai l'impression que Libérer la culotte, c'est comme le penchant intime parce que chaque autrice écrivait sur sa propre réalité. Fait que, tu sais, il y a des autrices qui vivent en polyamour ou, tu sais, qui ont, tu sais, bisexuels. Il y avait vraiment comme des autrices aussi qui étaient asexuelles, tu sais, vraiment comme un spectre assez large. Fait que ça me fait un peu penser à ça. Fait que, en tout cas, si tu n'as pas lu Libérer la culotte, ça avait été...
Ben, je l'ajoute immédiatement à ma liste, clairement.
C'était super bon. Je n'ai pas lu les autres, mais super bien dirigé. Donc, on a... Merci beaucoup pour ces beaux partages. On a vraiment une belle variété, j'aime ça, lorsque ça tombe de même. Là. Comme il y en a pour tous les goûts. On a Joanie qui nous dit qu'elle est à la dernière page de Noblesse oblige de Maywin, Alex, je ne sais vraiment pas comment prononcer son nom, désolée, qui est une excellente lecture. Et Joie de lire qui nous conseille fortement Hotline de Dimitri Nasrallah, un véritable coup de cœur qui nous fait vivre la première année à Montréal d'une migrante libanaise et de son fils. Quelqu'un l'a lu, Hotline? Non?
Je n'ai entendu que de bons commentaires.
Oui, c'est ça, moi aussi.
Oui, moi, je pense que là, au Salon du livre de Montréal, c'était une des suggestions de Chris Bergeron, si je ne me trompe pas. Mm. Fait que, ça doit être bon. Bon, j'ai fini un livre hier, donc je n'ai pas eu le temps de commencer quoi que ce soit aujourd'hui. Un livre qui a eu une méga réception lorsqu'il est sorti. Un livre qui avait vraiment tout pour me plaire et il a complètement réussi à me charmer. Les Insoumises de Fanny Rainville. Ce livre-là, on va suivre trois sages-femmes donc, qui travaillent au même endroit puis qui sont quand même aussi collègues et amies. Puis on va suivre une quatrième femme qui s'appelle Amel qui va immigrer au Québec, qui va vivre de la violence conjugale, ma foi, là, à un niveau extrême. C'est super violence. Dans ce livre-là, on va aborder... la femme, le droit et l'empowerment de la femme d'un côté, avec les sages-femmes qui essaient de redonner la force aux femmes, puis d'enlever dans la tête que, tu sais, accoucher, c'est la seule chose que tu fais à l'hôpital que c'est pas parce que t'es malade. T'sais. Habituellement, tu vas à l'hôpital parce que t'es malade, mais tu vas pas accoucher à l'hôpital parce que t'es malade. T'sais. Fait comme d'enlever cet aspect-là t'es une patiente, puis que t'es à la merci des médecins, que c'est quelque chose qu'on fait depuis des millénaires, puis qu'on a la force de faire. Et d'un autre côté, on a ces trois femmes-là qui sont comme en train de... qui aident les femmes à prendre leur corps et leur accouchement en main. Et d'un autre côté, on a une femme qui perd complètement tout contrôle et toute force et tout de elle, qui est complètement contrôlée par un homme qui lui empêche d'avoir toute liberté d'être elle, tu sais, qui devient plus rien. C'est un roman vraiment bouleversant. au début, tu sais, moi, il y a quand même quatre personnages. Moi, j'étais comme, j'ai de la misère un petit peu à rentrer là-dedans lorsqu'il y en a plus que deux. Puis l'écriture, elle est tellement forte de cette autrice-là que j'ai commencé à aimer leurs histoires avant d'aimer les différents personnages. Comme je suivais les histoires, puis c'était tellement écrit, tellement intelligemment. Il y a une histoire, Isabelle, elle a une belle-fille qui est la fille de son conjoint. Puis son conjoint, il n'est jamais là. Puis la blonde, elle ne s'en occupe pas. Fait que finalement, c'est comme elle qui s'occupe tout le temps de cette fille-là qui est rendue adolescente, qui s'appelle Iphigénie. Drôle de nom, mais bon. Puis éventuellement, elle va avoir des enfants. Puis elle va comme vivre cet aspect-là de comme... Je suis tout le temps en train de m'occuper d'un enfant qui n'est pas le mien, même si j'ai développé de l'affection pour cet enfant-là, puis que je m'en occupe, c'est quand même pas la mienne. Puis lorsqu'elle va voir ses propres enfants, elle va comme vivre des émotions complètement contraires de comme je veux passer du temps avec mes enfants, avec mon bébé qui vient de naître, mais je peux pas parce que je dois m'occuper de l'enfant d'un autre. Puis comme toute la complexité de tout ça, c'est à ce moment-là que j'ai fait comme c'est du génie ce qu'elle écrit cette madame-là. Comme c'est tellement intelligent, c'est tellement fin, la complexité des relations, à quel point c'est pas toujours blanc ou noir, que comme des bonnes personnes peuvent faire des mauvais choix, puis que même si c'est une bonne personne qui est devant toi, ben ça se peut que comme tu l'aimes plus, tu sais, puis qu'il n'y a comme pas vraiment de raison, outre que comme ça s'est arrêté. J'ai trouvé ça bouleversant. Puis les scènes avec Amel, ces scènes de violence conjugale-là, je vous dirais que c'est tellement bien écrit que j'avais l'impression de voir un film, puis je trouvais ça insupportable. Je tournais les pages, là, puis j'étais comme, je lis vite parce que comme j'ai mal à l'âme, j'ai mal à toutes les femmes qui vivent la violence conjugale. Puis je peux pas croire que je suis en train de lire ça, mais en même temps, je peux pas croire que ça existe. Tu sais. J'ai été bouleversée. Je vous le dis, là, ce livre-là, c'est le premier de mon année 2024. C'est le top 1. Sans conteste. C'est bouleversant. Ça m'a fait un peu penser que mon top 2, tu sais, c'est exact. Puis il y a comme vraiment un pouvoir des femmes là-dedans, de comme retrouver notre force, de, je sais pas, de nous remettre en valeur. Puis là, tu sais, je pensais à ton livre, à Ellie, puis ton livre d'Alexandre, je suis comme, en tout cas, tout ça, ça me fait vraiment du bien. C'est ça que je voulais parler aujourd'hui. Mais je sais qu'Ellie, toi, tu l'as lu. Y en a-tu d'autres, ouais, qui l'ont lu?
Ça a été un réel coup de cœur aussi.
Il est dans ma pile à lire, là. Il est sur ma table de chevet pour mon défi Emma, je t'appelle, mais on dirait, je l'ai justement mis dans la catégorie comme pour lequel tu prévois un coup de cœur. Là, je suis sûre que je vais adorer, mais on dirait que j'attends le moment parfait pour le lire. Je vais être disponible, je veux, comme, parce que je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que j'en avais entendu parler au podcast J'ai fait un humain, parce que je crois que Fanny Rainville avait été invitée.
OK. Oui.
Je ne vais pas dire n'importe quoi, hein, c'est ça. Elle était venue raconter son accouchement. Hein.
Mm. Ouais. Oui, elle est, si je ne me trompe pas, elle est accompagnante à la naissance également. Fait que, tu sais, ça ajoute de la crédibilité à son récit. Puis, tu sais, elle parle beaucoup de violence obstétricale aussi dans son roman, puis elle en a vécu aussi durant son accouchement. Donc, je pense que ça ajoute de la crédibilité à ses écrits.
C'est ça, une fois qu'elle raconte son accouchement qui était avant qu'elle fasse son cours d'accompagnante à la naissance.
Le moteur, là.
Oui. Ah, ben, en tout cas, merci de me rassurer là, sur ma mémoire. Je sais comme, est-ce que j'invente quelque chose?
Mais non, je l'ai vu.
Mais ça se sent, parce que moi, en tout cas, Je me suis perdue dans mes études, puis un jour, j'ai fait un cours d'accompagnement à la naissance. J'ai pas fait ma certification parce qu'il faut que tu accouches, il faut que tu aides une femme à accoucher, là, que tu. Mais pas, t'es pas sage-femme, là, mais tu vas accompagner, puis en tout cas, pour des raisons XYZ, ça s'est pas passé. Puis, lorsque j'ai fait ce cours-là, ça m'a vraiment, comme j'avais 22 ans, là, ça fait 10 ans de ça. Puis, ça m'a vraiment ouvert les yeux parce que j'ai beaucoup de peur. Tu sais, moi, je suis une grande phobique des hôpitaux, puis des interventions comme sans raison, tu sais. En tout cas, on pourrait s'étendre longtemps. Puis après ça, tu sais, moi, je me suis toujours dit, si j'accouche, je vais accoucher en maison de naissance, si je peux, parce qu'il y a quand même des critères. Puis c'est ça qui s'est passé. Tu sais, en janvier 2023, j'ai accouché, mais tu sais, j'ai été suivie par une sage-femme. Puis le contrôle qu'ils nous donnent sur notre grossesse, sur notre accouchement, les informations, tu sais, c'est toi qui décides, mais tu sais, voici les pour, voici les contre. C'est tellement informé. Puis, tu sais, c'est sûr que comme c'est une grossesse à risque, que tu peux pas, là. Mais, fait que, tu sais, moi, en disant ça, j'étais comme, je sais, j'ai accouché dans une maison de naissance. C'est tellement de même que ça se passe aussi, là. Fait que ça touchait à mes valeurs, on s'entend, là. Il y avait beaucoup de choses pour me plaire. Mais, je sais pas, Sam, si t'aimerais un ouvrage comme ça. Je sais pas comment, à quel point ça résonnerait pour quelqu'un qui est pas une femme aussi. Tu sais, je fais une lecture comme Isabelle, qui est pas mère, tu sais. Puis j'étais comme, j'aimerais vraiment savoir ton avis. Comme, est-ce que ça va te toucher autant que comme quelqu'un qui l'a vécu, puis quelqu'un qui l'a pas vécu, Sam, dis-moi donc, je veux savoir.
C'est vrai, c'est une bonne question, mais j'ai réalisé que mes goûts sont plus vers, mettons, le livre d'Alexandre de tantôt, le livre de la sorcière, hein? Genre tout ce qui est pouvoir, ben moi, justement, tous les livres de sorcière, c'est comme, j'adore ça, puis justement, tu sais, je suis en train de me créer comme une petite pile à lire d'œuvres féministes que je suis en train justement de me faire. Mais mettons, tout ce qui est sur la mère, ça peut-être moins. Genre, on dirait que genre, je serais moins attaché à aller vers, mettons, les insoumises.
Mm-hmm.
Mais peut-être que dans le futur, vu que c'est comme tellement dans le même champ, mané, que ça clairement, ça se fait quelque part. Fait que c'est sûr que. Mettons, le livre, je savais c'était quoi la couverture, mais je savais pas de quoi ça parlait.
Mm-hmm.
tu sais, fait comme là que t'en parles, je suis comme, oh, ok, ça, ça existe.
Ouais.
Parce que j'en connais pas tant au Québec de tout ça, je dirais.
Non, pas tant. C'est quand même, c'est juste la mentalité des sages-femmes, c'est quand même une mentalité très grano, là, tu sais. Moi, ma belle-sœur est végétalienne, puis elle me trouvait grano, là, d'accoucher en maison de naissance, fait que t'imagines. le niveau de...
Ben, moi, au contraire, tu sais, j'avais pas cette option-là parce que, bon, moi, j'ai accouché prématurément puis j'ai eu des grossesses à risque, donc c'est sûr que c'était pas envisageable pour moi, mais j'étais comme, wow, tu sais, mais pourquoi qu'on n'en entend pas plus parler, tu sais, puis que ça fait pas tant partie de nos options, tu sais, je pense que ça commence de plus en plus, mais c'est pas la chose... auquel tu penses en premier, ah, je vais accoucher chez moi ou en maison de naissance.
Non.
Puis entre accoucher, tu sais, mettons, chez toi ou à l'hôpital, il y a comme toutes différentes options aussi. Puis je trouve que ces options-là ne sont pas assez présentées, justement.
Mm-hmm. Moi, tu sais, j'habite maintenant en Ontario, là. Puis ce qu'on me dit, c'est que vu la pénurie de médecins, le gouvernement encourage fortement les femmes à d'aller avec une sage-femme si on n'a pas de médecin, si on a des grossesses sans risque. Peut-être que le Québec un jour se tournera vers une solution comme ça, à court terme, on ne sait pas qui c'est. On va avancer parce que, écoute, je finirai pas. Je vois dire les Insoumises, on s'attache vraiment au personnage, j'ai tellement aimé que j'ai sauté sur son nouveau Le Chant des Braises, différent mais tout aussi bien. C'est mon plan du mois de juillet. Mm-hmm. Les Marie-Thérature, allô! Les Insoumises, un méga coup de cœur, Le Chant des Braises également. Fait qu'une autrice à mettre sur votre table, définitivement. Là, on a traîné, mais c'est correct, la conversation était bonne. Je voulais qu'on fasse un minuscule aparté, justement, Jolie Autochtone. Ce que j'aurais aimé, c'est que vous nous parliez rapidement d'un livre comme, tu sais, très rapidement, là, d'un livre que vous suggériez ou d'un livre que vous aimeriez lire, qui fait partie de la culture, de la littérature autochtone. Fait que retournons à notre horloge. Élie, je te remets, tu en as parlé d'un déjà, mais est-ce que tu en as un deuxième?
Je vais vous dire juste un. Je vais vous parler rapidement là, de ces deux petits bouquins-là. En fait, Anénorak ont sorti comme deux petites... Anénorak, d'abord, c'est une maison d'édition purement autochtone qui est située à Wendake, près de Québec. Émergence insoumise, c'est la collection à rendre, donc c'est des mini-essais d'environ 40 à 50 pages. Ici, c'est Céline Diwal qui nous parle de les femmes qui ont dans les prisons pour femmes, ils ont une plus grande, statistiquement parlant, là, il y a plus de femmes autochtones dans les prisons que des allochtones. Donc, puis elle vient dire qu'est-ce qui manque, pourquoi ça c'est une belle porte d'entrée, en fait. Je trouve que ça amène une discussion et ça parle aussi, tu sais, des femmes autochtones, à quel point toute cette réflexion-là est venue un jour, elle faisait une présentation à l'université et elle attendait, je pense, son Uber ou son taxi. Et le gardien a dit, on ferme les portes, vous devez attendre à l'extérieur. Puis elle a regardé, puis elle a dit, tu sais, je suis une jeune femme autochtone dans un quartier que je connais pas. Est-ce que vous pensez vraiment que je vais aller attendre mon taxi dehors, tu sais? Puis on ne devrait pas avoir cette réflexion-là, tu sais, d'avoir peur pour notre sécurité. Et c'est d'autant plus vrai pour les femmes autochtones. Donc, vraiment, là, je vous invite à lire. C'est une belle... ça ouvre la discussion. Je trouve que c'est un très bel essai. Et sinon, il y a la collection Solstice comme ça, que ça aussi, c'est tout court. Et ce sont des nouvelles. Ici, c'est Isabelle Picard qui a aussi écrit « Des glaçons comme du verre » qui vient tout juste de sortir. Et elle a publié aussi une série niche pour ados, pour adolescents. Bon, probablement que Bibliomaniaque, Alexandre, tu la connais peut-être. Elle est bien populaire là, au secondaire. Et en fait, j'ai beaucoup aimé cette nouvelle-là parce que ça parle... L'homme aux deux visages, en fait, c'est un homme qui a deux côtés, hein, comme on en a... on est assez comme ça aussi, hein, tout le monde est le même, je pense bien. Mais lui, il a de la misère à voir, tu sais, il essaye d'écrire, puis c'est un écrivain, il essaye d'écrire, puis ça fonctionne pas. Et il ressent une pression, parce qu'il est autochtone, de parler juste de sujets auxquels on s'attend qu'un livre de la littérature autochtone va parler. Mais oui, il y en a qui parlent des traditions, qui parlent de l'histoire, de l'appropriation du territoire, des pensionnats, etc. C'est des sujets qui sont cruciaux, mais la littérature autochtone, les écrivains autochtones peuvent parler de n'importe quel sujet, tu sais, puis c'est un peu ça que ça vient mettre en valeur, puis je trouvais ça... franchement bien, en fait, parce que c'est réaliste, puis c'est ça pour n'importe quelle culture aussi, tu sais.
Ouais.
Donc, je trouvais ça vraiment bien. Et j'ai lu aussi dernièrement Chérie Dumaline, la même autrice que Les Sept sorcières, puis Heure de rêve. Et là, c'est une dystopie. Donc, tu sais, quand je dis qu'il y a vraiment plein de gens puis qui peuvent écrire sur différents sujets, bien, c'est vraiment ça. Et il était d'abord classé jeunesse. Je dirais que c'est un roman qui a quand même plusieurs trigger warnings, là, des traumas avertis. Donc, je le mettrais plus, moi, jeune adulte. Il a été réédité, puis ils l'ont mis moins format, je dirais. C'est un roman qui a gagné des prix, mais c'est une dystopie, donc on est dans le futur. Et les gens, en fait, ont perdu la capacité de rêver. Et là, ben le monde est en train de virer fou, parce que sans rêve, ben ils ont pas d'espoir, ils dorment mal, fait qu'ils viennent irritables, et là, c'est l'anarchie le chaos qui est entraîné. Et bien, les seuls qui ont encore la capacité de rêver, ce sont les Autochtones. Donc, ils vont recréer les pensionnats pour faire des analyses scientifiques pour voir ben, pourquoi eux autres, ils rêvent, puis pas les autres. Ils vont essayer d'extraire dans leur moelle cette capacité-là à rêver. Donc, fait que là, il y a un réseau de résistance qui va se créer, puis tout ça. Fait que c'est vraiment intelligent. Je trouve qu'il y a toujours un côté sociologique à la dystopie. Donc, c'est un genre que... Voilà.
Excellent. Mais merci beaucoup.
Désolée, j'ai trop parlé.
C'est bien correct. On prend tout. On a tout aimé ça. Noémie?
Je vais essayer. Ben, j'ai essayé de trouver quelque chose qu'on a un peu moins entendu parler. En tout cas, moi, j'en ai moins entendu parler. Donc, aujourd'hui, je voulais parler du Le Chant de Célia. Que j'ai lu, là, ça fait au moins un ou deux ans, là, fait que mes souvenirs sont un peu plus flous, là, mais en fait, là, là-dedans, on se retrouve, là, dans une communauté où il y a une jeune fille, enfant, là, même, qui subit une agression qui est très mal en point, là, à l'article de la mort, et qu'il y a des femmes dans la communauté qui la prennent sous leur aile, qui font des soins. Puis quand je dis la prendre sous leur aile, là, je crois qu'elle est dans le coma. Là. Elle est vraiment mal en point. Ils vont la soigner dans la communauté. Les gens se mettent à faire des rondes. Ils la surveillent 24 heures sur 24. C'était vraiment beau de voir ce qu'une communauté peut faire. Ils ont vraiment un objectif. Ils veulent la sauver. T'sais, ils mettent des conflits de côté. Ils font vraiment un projet de communauté de sauver cet enfant-là. C'était vraiment confrontant à certains moments. Au début, tu te dis, mais voyons, amenez-la à l'hôpital. Qu'est-ce que vous attendez? Appelez la DPJ, amenez-la à l'hôpital, faites quelque chose. Mais de comment ils décident de la soigner, de prendre soin d'elle, de prendre soin les uns des autres. Puis c'est entrecoupé là, de légendes qui font partie de la communauté. Au départ, je me souviens là, que j'avais trouvé ça lourd, comme difficile à comprendre, là, vraiment entrecoupé de légendes, mais du moment là, que j'ai embarqué, j'ai vraiment aimé ça, le voir, tout comment il faut déprogrammer notre cerveau, de réfléchir comme nous, on réfléchit, que c'est comme si quelqu'un a une blessure, amenez-la à l'hôpital, puis voilà, là, on ne se cassera pas la tête à veiller cette personne 24 heures sur 24, à essayer de lui donner des soins quand il y a des médecins qui sont là pour ça. Fait que j'avais vraiment trouvé ça beau là, de voir... cette autre facette-là, là, que nous, on n'est pas habitués. Moi,
ouais, je l'avais vu passer, mais je ne savais pas de quoi ça parlait.
Puis, j'ai aussi là, décidé de parler rapidement, parce que je ne l'ai pas lu, mais Un autre roman que j'ai pas entendu parler, mais que pendant longtemps, là, il me tentait, donc c'est Mon oncle Jules, qui, de ce que j'en comprends, là, retrace l'histoire de Jules Siwi, qui aurait été un personnage important, mais qui a été effacé de l'histoire. Donc, je sais pas s'il y en a qui l'ont lu, mais il m'intriguait là, vraiment beaucoup, que j'ai bien hâte de le lire. C'est ta prochaine lecture?
Oui, c'est pour ça, il est juste mais oui, c'est la prochaine. Puis j'ai lu en fait le conte Frétillant et Agile dans la même collection que L'homme aux deux visages. Puis Jocelyn, c'est oui, c'est un conteur. Et c'est ça, tu sais, il te raconte une histoire. C'est un marionnettiste aussi. Il fait plein de spectacles avec ses livres. Puis franchement, là, t'as l'impression qu'il te raconte l'histoire. Là, c'est vraiment chouette.
Puis, ça fait vraiment longtemps que je voulais le lire. J'attendais comme, encore là, l'occasion de l'acheter. Puis, j'avais croisé l'auteur au Salon du livre à Sherbrooke il y a comme 2 ans. Fait que j'en avais profité pour le faire dédicacer. Fait que c'est aussi une lecture là, que j'ai très hâte de faire. Puis, on n'en entend pas beaucoup parler. Fait que, à suivre. J'ai hâte d'avoir l'avis de Ellie.
On pourra faire une lecture commune, si tu veux, nous, Ellie.
Ah, ben oui!
La prochaine lecture, ça veut dire.
Oui, ben, pourquoi pas.
Après ton Virginie Grimaldi.
Oui, ça devrait se lire rapidement. Je serai disponible après toutes les occasions. Il me faut là, des occasions comme ça pour enchaîner sur ma pile à lire. Fait que oui, je serai partante.
Je me souviens de créer une date de lecture. Alexandre!
Pour ma part, je ne l'ai pas entre les mains, là, mais j'irai avec une bande dessinée. Je triche un peu parce qu'elle n'est pas écrite par une personne autochtone. Et c'est le Québec qui est né dans mon pays. C'est une énorme bande dessinée, un peu documentaire, mais ce qui est intéressant avec celle-là, tu sais, il y a eu des contributions de beaucoup de personnes autochtones qui ont pris part à la bande dessinée, c'est que c'est en fait l'autrice qui est allochtone. Ce qu'elle a voulu faire, c'est un dialogue entre les allochtones et les autochtones, parce qu'elle, en tant que Québécoise, qui est née sur un territoire qui n'est pas le sien, elle se sent mal, elle a honte d'être Québécoise, elle a honte d'être elle-même, tu sais, elle a honte de tout ce que les Québécois ont fait aux autochtones. Donc, elle veut essayer de, pas nécessairement de réparer ça, mais elle veut essayer, tu sais, d'ouvrir le dialogue pour se permettre de se pardonner à elle-même un peu, dans un sens. Donc, on en apprend beaucoup sur comment ça s'est réellement passé grâce à son dialogue avec des Autochtones, grâce à ses échanges aussi. Donc, c'est comme une espèce de BD documentaire. Là, on la suit vraiment dans son parcours, dans sa réflexion personnelle, puis on va rencontrer plein de personnes qui ont eu un impact, qui vont nous raconter comment ça s'est réellement passé, comment, tu sais, qui vont nous déconstruire un peu l'histoire qu'on connaît pour nous la raconter sous la vérité, finalement. Donc, je trouve que c'est un beau dialogue entre allochtones et autochtones, puis c'est pour ça que j'avais envie de suggérer cette lecture-là, même si elle n'est pas d'une autrice autochtone. Je pense que, tu sais, pour le dialogue qui a été fait entre les deux groupes, ben ça vaut la peine de la découvrir.
S'il y a des collaborateurs autochtones, c'est déjà une
ouais, c'est ça. Amélioration.
Oui. Parce que oui, faut faire attention, tu sais, quand on parle de littérature autochtone, généralement, tu sais, c'est pas des livres qui parlent des peuples autochtones, mais qui sont, et c'est des histoires qui sont écrites par des auteurs et des autrices autochtones.
Oui, c'est ça.
Mais là, vu qu'il y a des collaborateurs, ben, tu sais, ils ont quand même participé au projet. Là.
Et il y en a beaucoup. Je regardais à nouveau la fiche sur les libraires, puis il y a comme un paragraphe là, de 6-7 lignes là, de collaborateurs.
Wow! Excellent! Sam?
Moi, j'ai même pas encore lu de livres autochtones. C'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi. Mais depuis, parce que moi, ça fait 2 ans de ça que j'ai comme commencé à apprendre c'était quoi. Puis le premier livre que justement que j'ai connu, c'était Enfant du Lichen. Je ne sais pas si on peut bien voir. Puis l'histoire derrière ça, c'est que comment que j'ai découvert le livre, c'est que j'ai croisé l'autrice à ma job, puis elle cherchait son propre livre. Puis là, quand on l'avait trouvé, elle dit « Ah, c'est celui-là, je cherche. » Puis j'ai fait « Ah, vous êtes... » C'était rapide pour l'avoir trouvé tout seul. Elle a dit « Ah oui, c'est parce que c'est mon livre. » Là, j'ai fait Oh, OK. Fait que là, ça m'a comme titillé, puis elle m'avait comme expliqué que, justement, là, elle était autochtone, puis si je me trompe pas, ça parle de ses racines, justement, puis c'est un livre de poésie. Fait que moi, déjà là, ça me parlait. Fait que, comme je disais tantôt, il y a des livres que je sais pas de quoi ça parle, mais tu sais, comme juste cela, j'ai pas tout le schéma de tout ce que le livre va parler, mais déjà là, ça m'attire, ça m'intrigue de savoir c'est quoi. Fait que probablement la semaine prochaine, je vais lire ça. Sinon, il y a un livre que je vois beaucoup passer dernièrement sur les réseaux, c'est « Si je disparais ».
Mm-hmm.
Comme un roman graphique.
Un album, ouais.
Ouais. Un album. Celui-là, il a l'air de frapper vraiment fort. Fait que tous les avis positifs, là, dès que notre bibliothèque à Québec réouvre, là, je le réserve.
Ça s'en vient.
Ça s'en vient.
Bon choix.
Excellent. Salomé?
Mais là, on n'est pas partner in crime, moi et Sam, pour rien. Parce que littéralement, le livre dont je voulais vous parler, c'est « Enfants du lichen ». Parce que moi, je l'ai lu. Mais oui, dans le fond, dans ce livre-là, Maya Cousineau-Molène, elle parle de ses racines, mais aussi elle fait le lien entre le fait que, tu sais, les Autochtones, ben en tout cas, je pense qu'elle est Innu, et dans sa communauté, tu sais, ils vont consommer le caribou, le chasser, et le caribou ben mange du lichen, dans le fond. Donc, dans le fond, tout le monde vient du lichen. En gros, c'est un peu le fil conducteur de sa poésie là-dedans, mais c'est une poésie qui est très engagée, qui va autant parler des traditions que des pensionnats, que juste de c'est qui les différents peuples autochtones, mais surtout le peuple Innu, vu que bon, c'est à cette communauté-là qu'elle appartient. Et non, c'est ça, c'est vraiment super intéressant, c'est vraiment frappant. Moi, j'ai eu la chance aussi de la voir en café littéraire. Donc, elle a lu sa poésie, puis c'était vraiment comme ça rentrait dedans. Donc, c'est après ça que j'avais acheté justement « Enfant du lichen » et que je l'ai lu avec grand, grand plaisir. Je parle pas souvent de poésie, mais c'est tout le temps dans des circonstances où je me retrouve avec Maps que j'en parle et que j'en recommande. Donc, pour vrai, foncer.
Wow! Écoute, j'avais pas fait ce lien-là, mais pourtant, moi qui lis pas grande poésie, parfait. Est-ce que... Oui, OK, parfait. Et puis là, je regarde l'heure, fait que ça aura été notre deuxième sujet. Écoutez, on a eu bien trop de plaisir à parler de livres aujourd'hui. On prendra le deuxième sujet qu'on avait prévu une autre fois. Moi, si j'avais été un mini peu mieux préparée, il est comme là quelque part, mais bon, c'est ça la vie. Je voulais vous parler de ma queen, G.D. Curtness. Parce que je trouve que comme pas assez... On n'en parle pas assez de cette autrice-là. Puis... Elle écrit des trucs, elle écrit de la science-fiction slash anticipation. Puis, le dernier qu'elle a publié, c'est La Vallée de l'étrange. Et c'est un roman qui met en place une protagoniste super créative qui fait des créations qui servent absolument à rien. Puis, tu sais, comme... T'sais, elle met des poils sur des affaires, t'sais, que c'est un peu lettre ou c'est un peu comme champ gauche. Puis elle est vraiment comme la personne de sa famille qui ne fit pas. Là, t'sais. Elle a une personnalité aussi un petit peu comme attachante, elle est drôle, mais en même temps, elle est comme elle n'est pas tout le temps fine dans ses commentaires puis dans ses réflexions. Puis un jour, elle va comme construire un genre de petit animal en peluche qui ronronne, puis ça va faire comme fureur. Mais là, les gens vont vouloir que cette petite technologie-là soit plus développée, fait qu'elle va comme ajouter des différentes options pour comme plaire à la demande, puis ça va complètement déraper. Éventuellement, on va être rendu à un enfant, puis là, ben un enfant, puis là, il y a des personnes qui vont utiliser cet enfant-là de manière, tu sais, vous pouvez imaginer, là, comme un peu tordu, mais là, est-ce que, tu sais, c'est pas un enfant, c'est une poupée, mais comme jusqu'où qu'on est prêt à accepter puis à aller avec ça. Fait que, tu sais, à part d'un sujet banal, puis elle s'en va dans mes plus grandes peurs. Tu sais, comme moi, je fais juste penser à l'intelligence artificielle. On part d'une bonne intention, on fait ça dans des bons volets, puis pour des bonnes choses, puis il y a quelqu'un qui prend l'idée, puis qui dérape complètement, tu sais. Elle fait ça sur tous les sujets, juste son livre Aquarium. Elle l'a écrit avant la pandémie, ça parle de feu de forêt, puis ça parle de pandémie. Je peux-tu vous dire que j'étais comme cette fille-là, elle savait ce qui s'en venait, puis ça fait drôlement peur. Donc, si vous ne la connaissez pas, ce sont des tout petits livres, ça se lit super rapidement, des petits chapitres. Ça donne froid dans le dos, par contre. Il faut que vous soyez prêts à accepter.
Julie fait plusieurs animations au cours du mois de juin. Si jamais vous pouvez aller voir la programmation de Jolie Autochtone, là, il y a vraiment plusieurs activités avec elle. Puis effectivement, c'est le fun de voir des romans de genre en littérature autochtone.
Vraiment. Ça veut dire quelque chose, Alexandre?
Oui, bien, il est dans ma pile à lire. Il était dans ma pile à lire pour le mois de juin, Jolie Autochtone, justement, ce roman-là.
Vas-y. Ben, c'est à lire. Excellent, fait que c'est la fin de l'épisode d'aujourd'hui, qui est aussi la fin de la première année. Fait que je sais pas si j'ai le temps, je vais prendre 30 secondes pour prendre des petits commentaires. J'ai fait comme des petites questions sur Instagram pour savoir qu'est-ce que les gens aimaient du podcast et tout ça. Même si j'ai ouvert la porte à grande discussion, il n'y a pas eu d'insultes. je peux vous partager ça avec vous. J'ai demandé différentes questions. Qu'est-ce que les gens y ont aimé du podcast? C'est quoi leur highlight? Bon, Sylvain n'est pas là avec nous aujourd'hui. Il est parti, il était un grand voyageur à Toronto. Mais lui, il a parlé de la création, lancé ce beau projet-là avec moi. Il a trouvé que c'était super le fun. On a même Sam qui nous a écrit, qui est là en vrai aujourd'hui, les discussions sur un sujet. Puis aujourd'hui, il a pu participer à ces discussions-là. Noémie, la chance de discuter avec toi puis avec nous. Des lectures marquantes. Sylvain nous a parlé de Philippe Besson, le roman d'Isoline, ça c'est sûr que je ne vais pas arrêter de vous en parler, de Marriage Act de John Mars, Hello Kimi qui en avait parlé, de ce livre-là, Cheval indien. Si vous n'avez pas lu Cheval indien, mettez ça sur votre liste. Je dis autochtone, là. Hein? C'est très on voice aussi, c'est assez difficile. Des sujets que les gens dont on aimerait nous entendre parler. Puis si vous avez d'autres idées, vous pouvez les écrire en commentaire aussi. Sylvain nous a parlé de la mode des éditions collector avec jaspage, couverture rigide. Donc, on est dans le club des collectionneurs ici. Steph Greg, elle m'a écrit BD et romans graphiques. Puis Noémie, elle a une petite crotte sur le cœur avec « Comment vous vivez avec une pâle énorme?
» Non. Avec angoisse.
Oui, je ne suis pas la seule.
Donc, ça fait pas mal le tour. Excellent, on n'a pas trop dépassé. Joannie qui nous dit « J'ajoute la vallée de l'étrange à ma wishlist. » Ça semble très intéressant. Effectivement, je vous encourage à la lire. Sur ce, ben merci d'avoir été avec moi ce soir à mon panel. Vous avez été un panel de feu, pour vrai, là. Ça a été super le fun de discuter avec vous autres. Merci à ceux qui étaient avec nous en commentaire. On se retrouve le 18 juillet pour la première de la deuxième saison. Qu'est-ce que ça va changer? Je pense pas que ça va changer grand-chose. Mais c'est ça que ça veut dire. C'est ça qui va se passer. Donc, profitez de vos vacances. Si vous avez des vacances d'ici là, profitez de la chaleur, de la canicule. Ma directrice me dit que dans 6 mois, c'était l'hiver. Fait que j'étais comme, ah, oh. C'était pas nécessaire. Donc, okay, merci à tout le monde.
Un petit moment, Mars, pour te, oui. Ben, te féliciter. Pour franchement, bravo pour ton. Je te souhaite un bon, je sais pas, on dit un book anniversaire, un podcast anniversaire. En tout cas, joyeux anniversaire.
Merci, mais merci beaucoup.
Merci de nous inviter. C'est vraiment chouette d'avoir un endroit où on peut jaser. Puis c'est le fun aussi de rencontrer. Tu sais, souvent on se parle sur les internets et de pouvoir discuter comme ça, même si on vient de différents secteurs. Ben, c'est mm-hmm. Vraiment.
Ben, merci à tout le monde d'avoir accepté mes invitations. Puis, ben, on vous dit au mois prochain. On espère que vous allez faire de belles lectures. Bye!